Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Bruno Bonnel, un chef d'entreprise à succès qui s'est engagé derrière Emmanuel Macron. Il est député du Rhône, La République En Marche.
Bonjour Bruno Bonnel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. En effet, vous êtes un entrepreneur, longtemps roi des jeux vidéo, je disais, en France, en Europe, à la tête d'Infogrames, qui n'a pas survécu à l'explosion du secteur. Vous êtes reconverti dans la robotique et enfin aujourd'hui dans la politique. Qu'est-ce qui vous frappe, Bruno Bonnel, dans cette nouvelle vie par rapport à la précédente?
C'est deux choses. D'abord, c'est l'énergie et cette espèce de symphonie politique qu'on est en train de vivre. On avait l'habitude d'une espèce de monodie où on disait toujours la même chose. Et là, on est une espèce de mouvement d'ensemble où on mélange justement la droite, la gauche. Et puis la deuxième chose qui me frappe, c'est quand on vient de la société civile, on pilote des bateaux à moteur. On a un cap, on met de l'essence, on roule. Quand on est en politique, on fait du bateau à voile. On tire des bords à droite, on tire des bords à gauche, en fonction des courants, en fonction des vagues.
Les effets sont plus subtils et plus lents.
Mais en tout cas, il faut garder vraiment la tête froide et le cap. Et
pourquoi?
Je crois que c'est ce qu'on oublie. Parce que les commentateurs politiques dont vous faites partie regardent souvent les bords qu'on tire et on se pose pas mal de questions. Donc il faut garder une certaine foi et un cap.
Est-ce que vous n'êtes plus que député? Je disais, vous avez été chef d'entreprise pendant des décennies. Vous avez laissé tomber toutes vos activités nombreuses?
Oui, j'ai laissé tomber. Oui, bien sûr. Ce qui se passe, c'est que c'est un process. Je sais que le canard, notamment, m'a épinglé.
Alors, le canard enchaîné ce matin dit que vous présidez encore cette société, vous participez à la direction de 13 entreprises et vous détenez des participations financières dans 11 sociétés. N'en jetez plus.
Mes participations financières ne changeront pas parce qu'à ma connaissance, on n'a pas supprimé son patrimoine quand on devient un homme politique. Par contre, je ne suis plus en opération sur aucune des sociétés. Mais il y a des process. La loi est là et on doit convoquer des assemblées générales pour démissionner, trouver un remplaçant. Je ne vais pas laisser tomber les centaines d'emplois que je pilotais juste au nom de dire il faut faire les choses en 15 jours.
C'est
donc
pour ça
à la fin de l'année, tout ça sera réglé.
Dans votre déclaration à la Haute Autorité de la vie publique, en effet, vous déclarez vous-même que vous avez encore des participations, des présidences. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, cette année 2017,
31 décembre 2017,
vous vous engagez à ne plus avoir aucune présidence. Aucune présence en conseil d'administration, vous en aviez beaucoup?
J'en avais un certain nombre. Et
plus aucune dans les semaines qui viennent?
Bien sûr.
Et c'est parce
au 31 décembre, ce que j'ai toujours dit.
Donc c'est encore le cas. Là, vous cumulez encore votre activité?
Non, pas du tout, puisque avoir une présidence de conseil de surveillance, ça représente une réunion à peu près tous les trimestres, ce qui n'est quand même pas une charge qui m'empêche d'exécuter ma tâche législative.
C'est un engagement. Ce matin, vous aurez fait le ménage au 31 décembre.
Mais il a bien commencé d'ailleurs.
Vous avez toujours voté à gauche, Bruno Bonnel?
Toujours.
Ma
premier vote, Krivine.
Ensuite,
à 18 ans. D'ailleurs, je trouve que c'est légitime à 18 ans d'être plutôt complètement à gauche.
Vous avez été assez proche de Montebourg à une époque.
Oui.
Puis le coup de foudre pour Macron. Vous êtes plutôt du genre cœur à gauche et portefeuille à droite, comme on disait avant. Vous savez, vous êtes plutôt libéral en économie.
Écoutez, j'ai participé à une trentaine d'entreprises et j'ai toujours eu un sens aigu du partage de la valeur. Et notamment à Infogrames, quasiment tous les employés avaient des actions. Et pouvait librement les céder, puisqu'on était en bourse. On a parlé tout à l'heure des affres de la bourse. Il faut savoir aussi que c'est une dynamique qui permet à beaucoup d'entreprises, dans un contexte particulier, de se financer et de se développer. Donc, je pense que avoir le portefeuille à droite ou à gauche, ça ne veut plus rien dire. Ça veut tout simplement dire qu'il faut que, quand les choses marchent bien, il faut partager la valeur. Quand les choses marchent mal, par contre, il faut être conscient que les négociations sont aussi de rigueur.
Oui, mais il y a encore des débats sur la morale en entreprise. Ce n'est pas terminé, mais en ce moment en particulier. Est-ce que vous avez fait, vous, de l'optimisation fiscale avec vos entreprises?
J'ai été accusé de ça. Ce n'est pas pareil.
Été accusé, effectivement, notamment par votre adversaire de la France Insoumise, d'avoir fait de l'optimisation fiscale. Mais est-ce que vous en avez fait?
Bien sûr que non. Ça veut dire qu'à titre personnel, j'entends, ce qu'on appelle le mot optimisation,
on parle
il est intéressant.
Ouais.
Oui, mais il est intéressant parce que le mot optimisation, s'il est positif, quand on optimise, par exemple, son énergie, on est quelqu'un de bien. Par contre, quand tu rajoutes le mot fiscal, on est quelqu'un de mal. Mmh. Et c'est intéressant parce qu'on mélange tout. L'optimisation fiscale n'est pas de la fraude fiscale.
Non.
Et sur certaines législations, par exemple les États-Unis, on demande à un chef d'entreprise, à un CEO, d'optimiser complètement les taxes qu'il doit payer. C'est une philosophie. Or, ça...
Pour une entreprise, l'impôt, c'est un coût comme un autre. Il faut le réduire par tous les moyens légaux.
Mais
c'est ça l'idée? C'est la logique, ça?
Mais évidemment, dans un état de droit, il y a des règles. on n'est pas dans la morale, parce que vous savez, au nom de la morale, on a fait beaucoup de bêtises. Hein. Il faut donc faire très très attention à ce claim. Personne n'a l'exclusivité de la morale. Quand on est en état de droit avec des règles, en entreprise, il faut jouer ces règles. Et effectivement, si on continue en tant que politique à laisser des trous dans la raquette, par exemple en Europe, en ayant des diversités fiscales qui permettent à certains pays, qui sont minuscules d'ailleurs, hein, c'est très étonnant, on parle toujours des mêmes. L'Irlande, le Pays-Bas, Malte, ce sont des pays microscopiques par rapport à une Allemagne, une France ou une Espagne, une Italie. Donc si on continue à laisser des trous dans la raquette, nous, en tant qu'hommes politiques, ce qu'on doit faire, c'est continuer d'une façon obsessionnelle à chercher à faire de l'Europe un bloc fiscal cohérent.
Si vous étiez encore dans les affaires, pour dire les choses, vous pourriez démarcher plusieurs capitales européennes qui vous proposeraient d'échapper à l'impôt et vous vous donneriez au plus offrant.
Mais ils ne proposent pas d'échapper à l'impôt. Ce que font chaque capitale européenne, c'est qu'ils vous proposent un deal, comme on dit. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Plein de multinationales viennent en Europe parce qu'ils ont compris que ce marché est en train de redémarrer et vont faire leur marché. Donc ils vont voir l'Angleterre et disent « qu'est-ce que vous nous proposez comme taxe ?» Ils vont voir la France « qu'est-ce que vous nous payez comme taxe ?» Et ça, je crois que c'est une erreur. Il faut garder cet esprit. Allons vers un continent fiscal.
Il y a une différence entre l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale. Quand Bruno Le Maire accuse l'évasion fiscale d'attaquer la démocratie, vous êtes d'accord ?
Écoutez, je ne sais pas de quoi il parle. Voilà, je vous rappelle. Vous savez, moi je suis pas très politiquement
correct. Moi, je peux vous dire, ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le monde comprend aujourd'hui.
Non, moi je le comprends pas. Parce que si l'évasion fiscale,
il s'agit d'aller mettre de l'argent ou de passer par des paradis fiscaux, en tout cas des pays étrangers, vous le disiez, pour réduire ses impôts.
Non, c'est deux choses différentes. Quand on a une activité dans un pays, on doit payer les impôts dans un pays. Quand par exemple Total exploite en Afrique du pétrole. Il paye les impôts sur les territoires où il l'exploite. Par contre, à ma connaissance, on n'exploite pas beaucoup de pétrole en France. Donc c'est logique que là, sur cette partie-là, Total aura peut-être moins d'impôts à payer sur la France. Je pense qu'il faut faire attention aux mots. Fiscal en France, c'est totem et tabou.
Les multinationales font... certains économistes disent que 40% de leurs profits sont délocalisés dans des paradis fiscaux.
Non, attendez. Il y a deux choses qui sont différentes. Cette notion de paradis fiscal, d'abord, elle est légale. Il y a une liste des paradis fiscaux. Il y a une liste de pays.
L'Europe, c'est pas encore entendu sur une liste, hein,
non.
La liste noire.
Si, il y a une liste quand même de l'OCDE qui détermine clairement quels sont les pays. L'île de Man, par exemple, est dans cette liste. Un certain nombre de pays dans les îles Caïmans sont dans cette liste. Donc, il y a une liste des paradis fiscaux où là, on fait du détournement. Et puis, il y a tout simplement de l'optimisation fiscale qui est faite par des règles qui sont des règles de droit et pas forcément des règles de la morale, avec toutes les réserves dont j'ai expliqué tout à l'heure.
On comprend pour vous que la légalité, ça justifie un certain nombre de pratiques.
Ça justifie la démocratie, la légalité. Heureusement qu'on a
de l'injustice. Et en un mot, elle est où ? Parce que pour qu'on comprenne bien, vous, la limite, vous la posez où ?
La fraude. La limite, c'est, vous savez, quelqu'un qui traverse la frontière et qui achète son paquet de cigarettes en Belgique, est-ce qu'il optimise fiscalement ou est-ce qu'il se donne du pouvoir d'achat ? En tout cas, il ne paye pas de TVA en France.
Sur le fond de ce que vous avez déjà voté en tant que député, est-ce qu'il n'y a pas un télescopage un peu embarrassant avec la suppression de l'ISF vise à faire revenir les exilés fiscaux, on leur déroule un tapis rouge, et puis le fait que dans la loi budgétaire, il n'y a rien pour lutter contre l'évasion fiscale. Vous ne trouvez pas ça un peu léger ?
L'évasion fiscale n'est pas qu'un problème territorial. L'évasion fiscale, c'est un problème global qui concerne le continent, en tout cas européen, voire l'international. Donc on ne peut pas simplement, au niveau de la loi française, dire autre chose que nous sommes déterminés à essayer de trouver une solution. Vous savez, c'est intéressant avec La République en marche, c'est qu'il y avait plein de choses qui étaient considérées comme impossibles que nous avons fait. Et bien le pari là, c'est de faire une harmonie fiscale en Europe.
Une harmonie fiscale entre tous les pays, oui. Effectivement, ça va être compliqué. Encore une fois, ils n'arrivent même pas encore à se mettre d'accord sur la liste noire des paradis fiscaux. Vous assumez ce premier budget Macron, le fait qu'il soit clairement plus à droite qu'à gauche ?
Mais vous savez, je crois qu'on passe d'une situation où on veut faire un budget de transformation sur 5 ans. On a juste oublié, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cap. Le cap, c'est 5 ans. C'est pas s'arrêter à ce premier budget, c'est voir comment il va se dérouler, notamment sur l'année prochaine, avec beaucoup de réformes qui sont en faveur de la formation professionnelle, de l'apprentissage. Donc, il y a quand même des 50 milliards qui vont être investis, injectés dans l'innovation, dans tous les secteurs, aussi bien l'agriculture que la formation. Donc, je l'assume parce que c'est un budget en marche.
Vous n'êtes pas candidat à la tête de La République en marche, c'est Christophe Castaner le seul candidat, mais vous n'êtes pas non plus candidat, sauf erreur, sur une des listes qui composeront le bureau exécutif. Pourquoi votre âme de patron, c'est terminé ? Vous ne voulez plus diriger ?
Non, je pense que chacun a son rôle. On est 313 députés avec des compétences complètement différentes. Si certaines personnes sont plus intéressées à se concentrer sur la structuration du parti, tant mieux. Moi, j'ai plutôt justement un rôle de clarification et d'explication de ce monde de l'entreprise. sur lequel je crois que c'est important aussi d'arrêter le fantasme et d'arrêter cette opprobre permanente comme quoi le patron serait un tricheur, alors que c'est quelqu'un qui génère de l'emploi et qui fait partie du corps social.
Vous êtes lyonnais, quand vous venez à Paris, vous êtes à l'hôtel ?
À l'hôtel, oui.
Et alors l'idée d'aller en Airbnb pour faire des économies, comme on en parle, puisqu'on fait des réformes, vous voulez faire, le groupe La République En Marche, vous voulez faire des réformes et des économies.
C'est un beau challenge, en tout cas c'est une option, parce que souvent il y a des hôtels à Paris qui sont pleins, donc on pourra déporter. Maintenant, je pense que ça serait plus anecdotique qu'autre chose. Le plus important à comprendre, c'est qu'effectivement l'Assemblée nationale doit se renouveler, doit trouver des nouvelles manières d'être gérée. Moi j'ai même proposé que certains amendements, pour éviter justement de dormir à Paris, soient votés en ligne au téléphone.
Un clic ?
Pourquoi pas ? Pour certains d'entre eux, techniques en tout cas, ça justifierait pas des voyages en ce qui me concerne fatigants. Au contraire, imposons les votes solennels en disant qu'ils sont obligatoires et puis marginalisons un certain nombre de discussions qui, à 1h du matin dans l'hémicycle, sont pas très 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 utiles.
La proposition de Bruno Bonnel, oui, ce matin sur RTL. Merci à vous d'avoir
Merci
été dans notre
vous.
Studio ce matin.
Et sur l'évasion fiscale, Bruno Bonnel vient de nous dire on doit chercher à faire de l'Europe un bloc fiscal cohérent, aller vers un continent fiscal, même si ce sera difficile. Puis on notera cette remarque sur ces nouvelles activités. L'entreprise, c'est du bateau à moteur, la politique à l'Assemblée, de la marine à voile, on tire des bords. Merci à tous les deux. Merci. On retrouve l'entretien dans son intégralité sur le site rtl.fr.